bien, bonjour. Bonjour à chacun, aux parents, aux enfants de tout âge. Et ce matin, le thème, c'est le rôle des parents. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les enfants, parce que vous avez des parents. Et vous voulez bien savoir pourquoi ils sont là, nos parents. Et ça concerne les parents parce qu'ils ont une responsabilité devant Dieu. Puis tout le monde, pas mal, son parent, même moi, même si les enfants sont partis. Alors, je vais inviter les gens à venir en avant. Alors, vous allez voir qu'on a 4 personnes qui vont venir nous parler de leur rôle de parent. Et on va les avoir par groupe d'âge. Il va y avoir Sylvain Lalonde ici qui va nous parler du rôle de parent quand on est parent d'enfants de 0 à 10 ans. Ensuite, il va y avoir Emmanuel qui va nous parler du rôle de parent quand on a des ados. C'est beaucoup plus facile quand on a des ados, n'est-ce pas? Puis ensuite, on a Fanny qui va nous parler quel est le rôle des parents quand on est seul, quand c'est une famille monoparentale. Et Fanny vit cela depuis quelques années. Et ensuite, on va demander à Gaétan de nous parler quel est le rôle du parent quand c'est un nid vide. Les enfants sont déjà partis. Certains mariés, certains non. Et je leur ai demandé cette semaine de répondre à 2 questions. Et je leur ai envoyé les 2 questions. Et voici ce que je leur ai dit. Basé sur l'enseignement biblique reçu sur ton rôle de parent et basé sur ton expérience, que considères-tu le plus important à faire comme parent? Première question. Et la deuxième, c'était, quel est le plus grand défi comme parent? Alors, je leur ai demandé de se limiter à 5 minutes. Ils ont eu le temps de réfléchir. Ils ont discuté avec leur conjointe, d'autres personnes, c'était applicable. Et ce matin, chacun va vous partager ce qu'ils ont réfléchi, ce qu'ils ont voulu vous partager ce matin. Maintenant, moi, j'ai un micro et je vais le passer et je vais demander à chacun, à tour de rôle, de vous adresser la parole. Je veux les remercier d'avoir accepté cela, d'avoir réfléchi sur cela. C'est pas facile de dire, savoir qu'est-ce que je dis, puis d'avoir le courage de partager. Ce qui est le plus important, c'est plus facile, mais ce qui est encore un défi, c'est plus difficile. Alors, Sylvain, je te passe le micro.
Bonjour à tous. Mon nom, c'est Sylvain Lalonde. Fait que Gilles... Ouais. C'est pas nécessaire, c'est correct. Je suis pas parfait. Loin de là. Fait que... C'est intéressant comme question, et quand Gilles l'a posé, ça a vraiment créé un beau moment de réflexion pour moi et mon épouse en fin de semaine. Ça tombe bien. On n'avait pas les enfants. Fait que, on en a parlé quand même en assez longtemps. Et avec des jeunes enfants, moi, j'ai un garçon de 3 ans puis une fille de 5 ans. Fait que c'est assez frais pour moi. Et je peux dire que quand que tu apprends que tu vas être père pour la première fois, déjà, les pensées rentrent dans ta tête. Comment est-ce que je vais être le père parfait? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'enfant parfait? Puis, de un, je ne suis pas un père parfait, loin de là, et les enfants ne sont pas parfaits. Mais qu'est-ce qui est le plus important en tant que parent? Je dois dire 3 choses. 1, protéger mon enfant, aimer mon enfant et instruire mon enfant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer. Tu apprends en tant que parent que, surtout à cet âge-là, c'est quoi la vraie définition de l'amour inconditionnel? C'est intéressant parce que, autant que tu veux aimer ton enfant, bien, moi, j'ai appris à travers mes enfants c'est quoi la définition d'amour parce qu'eux aussi me démontrent comment est-ce que je dois aimer en retour. Parce qu'eux, ils n'ont pas de conditions dans la manière qu'ils aiment. Et c'est encourageant parce que moi, en retour, je veux les aimer de la même manière. Je veux les protéger. Si quelqu'un ose faire du mal à mon enfant, aïe aïe, attache ta tuque, ça va aller mal. Mais c'est ma responsabilité de créer un environnement où ce que c'est sécuritaire, où ce que ils se sentent protégés, où ce que ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'accomplir les choses, ils n'ont pas peur de foncer, ils n'ont pas peur de grandir, de faire des essais parce qu'ils savent que papa et maman seront là pour les protéger, seront là pour les aimer malgré tout. Moi, je ne suis pas une personne qui est parfaite, on s'entend, loin de là. Et qu'est-ce que j'ai comme modèle pour ça? Bien, c'est mon père, j'ai eu un père moi aussi, bien, j'ai qu'est-ce que lui m'a laissé comme modèle, j'ai qu'est-ce que j'ai vu dans d'autres personnes comme modèle, mais j'ai mon père céleste qui est le modèle parfait. Qu'est-ce que lui me démontre en tant qu'amour? Est-ce que son amour envers moi est conditionnel à quelque chose? Est-ce que le pardon que lui a pour moi est conditionnel à quelque chose? Est-ce que la discipline que lui fait envers moi est le modèle que je veux enseigner à mes enfants comme je les discipline parce que je les aime? Fait que je suis une création de plusieurs modèles, de plusieurs personnes, mais en bout de ligne, c'est mon Père Céleste qui est le modèle parfait de tout ce que je veux accomplir envers mes enfants.
Merci, Sylvain. Alors, pour le groupe d'ado, le groupe le plus facile, là, Emmanuel, je sais que tu as une tâche plus facile. Alors, je vais te laisser répondre à ces deux questions-là.
Oui.
Et écoutez bien le défi que les parents ont pour ce groupe d'âge-là et les autres âges aussi. C'est important. C'est aussi important que de savoir qu'est-ce qui est le plus important parce qu'on a chacun des défis et on a besoin de la présence de Dieu dans nos vies.
C'est le fun parce que les parents qui n'ont pas encore d'ados, vous allez tous vous rendre à la partie facile où ceux qui ont 12 ans puis qui sont tous, ils savent tout puis que c'est bien, bien, bien fun. Ça a été un bon moment pour cette semaine quand Gilles m'a contacté. On a parlé, mon épouse et moi, puis après ça, j'ai parlé avec mes enfants. Je leur ai montré ce que j'allais dire. J'ai tout écrit. Puis là, mon gars, il me dit, « Ouais, tu es un petit peu preachy, là, ton affaire. » J'ai tendance à être très porté vers les sermons. Et nos ados qui sont intelligents, qui sont souvent habitués avec le contexte des églises, nous amènent un aspect différent. Et je vais apporter ça dans mon petit texte ici, qui est peut-être, je vais essayer de le mettre pas trop preachy. Dans le fond, j'ai sensiblement la même réponse. Aimer nos enfants. Fait que notre rôle, mon rôle, la chose la plus importante en tant que parent d'ado, c'est d'aimer mes enfants, mais pas de la même façon que tous les humains aiment leurs enfants, parce que même les gens qui sont non-croyants aiment leurs enfants, et moi, j'ai Dieu dans ma vie. Puis, ce que Dieu me demande, c'est de refléter l'amour de Christ envers mes enfants. C'est pas, oui, moi, je les aime, mais c'est de démontrer l'amour que Dieu a envers moi vers mes enfants. C'est un peu, je suis un disciple, je suis aussi un maître avec mes disciples, je suis responsable de communiquer c'est quoi être un chrétien à mes enfants. Et nos ados le voient. Cet amour que mon épouse appelle l'amour sacrificiel, c'est pas un amour humain, c'est un amour divin et c'est Dieu qui le fait au travers de moi. Et ça, c'était peut-être l'aspect preachy que mon gars voit là. Mais c'est vrai, c'est concret. C'est pas juste théorique, c'est concret. Et ça, si vous donnez, et après ça, vous dites, « Ouais, mais je t'ai amené à ton cours de danse ou de karaté ou peu importe. Je t'ai fait ça. » Et vous attendez quelque chose en retour, ils vont le voir. Et ça m'amène à la chose la plus difficile, qui est la constance. Être constant dans notre façon de témoigner à nos enfants, à nos ados. Si je le suis un dimanche sur deux, ou si je le suis une semaine sur deux, ou un mois sur deux, parce que là, je suis toute pépée, j'ai eu une bonne preach, puis là, je suis toute pépée, après ça que je redescends. Bien, nos ados le voient, et ils voient ça comme une religion, et ça leur fait, ça amène du dédain dans leur bouche. Ils n'aiment pas ça. et ils vont se sauver de l'Église parce que c'est une religion et les gens n'aiment pas, les ados n'aiment pas le contexte religieux, strict, habitude. C'est pas vrai, c'est juste hypocrite. Et ça, cet aspect-là, l'authenticité, la constance, c'est un défi très grand pour moi, mais je pense pour la plupart des parents d'ados, là. Et c'est pour ça qu'on a besoin, en tant que parents, d'être proche de notre Dieu, constamment dans la Bible, constamment dans la prière, s'entourer de gens qui vont nous aider dans l'Église, s'aider, s'épauler avec notre conjoint, notre conjointe, dans tout ça. Donc, aimer nos enfants de façon sacrificielle, sans rien attendre, mais refléter l'amour de Dieu au travers de nous, être un serviteur de Dieu auprès de nos enfants, demander ou sans s'attendre et laisser Dieu agir dans tout ça, être un témoin de Dieu, puis d'être constamment, d'être continuel. Dieu est constant et nous devrions être constants.
Merci, Emmanuel. Plusieurs personnes dans l'Église vivent la vie familiale, mais sont un seul parent. Et Fanny a vécu ça depuis quelques années. Et je pensais important que Fanny puisse nous partager comment elle le vit, comment pour elle, ce qui est le plus important et quel est le défi. Alors, je vais donner la parole à Fanny.
Oui, donc, je suis Fanny Cloutier, puis j'ai 4 enfants, pour ceux qui ne savent pas. J'ai une fille de 12 ans, 2 garçons de 14 et 16 ans, puis une fille de 18 ans. Donc, moi aussi, je suis dans la période d'ado. J'ai été mariée pendant 18 ans, puis ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis séparée, divorcée. Donc, c'est une autre réalité, une autre vie pour moi, dont j'ai dû m'adapter. Puis, dans ma situation actuelle de garde partagée, étant le seul parent aussi à marcher pour Dieu, je dirais que les deux points que j'ai ressortis qui étaient le plus important pour moi, c'était les suivants. Donc, le premier, c'est un point plus général qui pourrait s'appliquer aussi à tous les parents chrétiens, qui est de vivre l'Évangile au quotidien. Puis, je dis ça parce que les enfants, surtout à l'âge d'adolescence, oui, nos mots, ils ont beaucoup de poids, mais je dirais que les actions parlent encore plus, parce que de plus en plus, ils nous regardent aller, puis c'est ce qu'on projette aussi comme vie chrétienne qu'ils regardent, puis c'est sur ça qu'ils vont se baser aussi pour forger leur propre opinion de c'est quoi la foi, puis c'est quoi la vie chrétienne. Donc, moi, je trouve que c'est un point très important, puis si mes enfants voient une maman qui est capable d'admettre ses torts, qui est capable de demander pardon, s'ils voient une maman généreuse, capable de donner son temps, une maman aussi qui met ses dons au service de l'Église locale pour servir, qui est capable de faire le bien, même quand il ne le mérite pas, toutes ces choses-là, c'est de vivre l'Évangile au quotidien. Puis, dans le fond, excusez. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus seulement des théories puis des belles paroles, mais maintenant, c'est quelque chose qui prend vie. C'est une vérité qu'ils voient agir puis transformer une vie. Puis, je pense qu'en tant que parent, on a une énorme et belle occasion de pouvoir refléter l'amour de Jésus. Et je pensais comme dans un miroir, le reflet, c'est jamais l'image parfaite et exacte de l'image originale. Donc, moi, je ne suis pas parfaite. J'ai mes failles, j'ai des torts, puis je fais des erreurs en tant que parent. Mais, dans le fond, suite à ça, je peux me tourner vers Dieu, demander pardon, puis il me relève. Puis c'est ça la grâce, puis c'est ça la beauté de l'Évangile aussi. Et c'est ça que je veux que mes enfants puissent voir à travers mon vécu, puis à travers ma vie. Donc, ça, c'était mon point preachy, comme tu dirais, puis un petit peu plus général. Mais dans ma situation aussi de parent célibataire, je dirais que le deuxième point important que j'ai ressorti, c'était justement d'être bien entouré. Puis tu en as parlé toi aussi, Emmanuel. Et particulièrement dans ma situation, étant seule à la maison, j'ai personne à mes côtés pour m'encourager, pour m'exhorter, même dans mon rôle de mère, pour me soutenir quand ça va mal. Puis, je peux vous dire qu'élever 4 enfants et prendre toutes les décisions toute seule, ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai vraiment compté sur tout mon entourage, les gens qui m'entouraient. Je pense à tellement d'heures passées au téléphone avec ma sœur, ma mère, des amis, plein de sorties pour aller prendre un café avec des amis aussi pour jaser. Je pense aussi à mon groupe de femmes en croissance, mon groupe maison aussi qui était là pour me soutenir, pour prier pour moi. Quoi d'autre? Tellement de choses. Tous ces gens-là, la belle famille qu'on a ici à Gatineau, ça fait 21 ans maintenant que je fais partie de l'Église de Gatineau, puis je suis entourée, puis ça a vraiment fait une différence à travers ces années-là. Donc, c'est un des conseils que je pourrais donner à ceux qui sont dans la même situation, d'être un parent seul. Entourez-vous, restez pas seul, parce que même si je suis seule à la maison, je suis pas seule, je suis entourée, puis ça fait une différence. Dans ma situation aussi, je dirais qu'un des grands défis auxquels j'ai fait face puis que je fais encore face et que je lutte encore avec ça, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur tellement de choses dont je n'ai aucun contrôle. Ça va des plus petites choses banales comme quelle nourriture mes enfants mangent parce qu'une semaine sur deux, ils ne sont pas avec moi. Je ne peux pas contrôler la quantité de légumes qu'ils vont manger. Puis... c'est des décisions comme qu'en tant que parent, je devrais avoir un mot à dire, mais que maintenant, j'ai plus mon mot à dire parce qu'ils sont pas chez moi. Donc, tu sais, deux foyers, c'est deux façons de vivre différentes, des règles différentes dans les deux places, puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, lâcher prise, ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre, autant dans les petites choses plus banales que dans les grandes choses aussi, puis dans des situations vraiment plus compliquées. Et de continuellement me rappeler que c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui prend soin de mes enfants aussi, puis de me rappeler continuellement qu'il les aime encore plus que moi, puis il va en prendre soin même quand ils ne sont pas avec moi. Donc, c'est ça.
Merci, Valérie. Et vous autres, les enfants, comment ça va ici, là? Hein? Ouais, ça va bien, oui? Hey, j'en reviens pas comment vous êtes tranquille et sage. C'est vraiment, là... Ah non, il l'était pas. Il m'avait l'air pas mal tranquille, moi, là. C'est bien de... Maintenant, je peux vous dire un secret. Si les parents, là, qui sont ici, disent qu'est-ce qu'ils devraient faire comme parents, ça va vous permettre de comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent. Puis vous allez même pouvoir faire une évaluation. Est-ce qu'il remplit son rôle comme il faut? Hein? Fait que vous avez besoin d'écouter. Et maintenant, le plus bel âge, on va le laisser à Gaétan.
Bonjour. Alors, mon épouse Ivy et moi, on s'est attardé sur ces questions. Et on peut dire beaucoup de choses, mais on a essayé de résumer ça. Mais une chose que... réaliser que c'est qu'à travers les années, le rôle de parent fluctue dans le sens qu'on doit jouer différents rôles, on doit être flexible. Mais pour ce qui est, on a le privilège d'avoir 4 enfants qui sont mariés et on a en tout 10 petits-enfants. Fait que ça fait une bonne gang. Et c'est un privilège de les avoir et de pouvoir faire partie de leur vie. Mais voici pour la première, en réponse à la première question, c'est respecter les choix de nos enfants, même si nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'ils sont, ils font leur vie. Et oui, ils vont nous partager leurs décisions, ce qu'ils entrevoient, puis tout ça. Bien, dans le fond, nous-mêmes, des fois, on dit, bien, il me semble que ce n'est pas la meilleure chose. Et bien, à moins qu'ils nous demandent des conseils, on essaie de se la fermer. Puis on se mord les lèvres, puis en tout cas. Mais s'ils demandent, on est prêt à les conseiller, à essayer de discuter avec eux. Une autre chose qui est en rapport avec ça, c'est de ne pas s'ingérer dans leurs affaires. Encore là, à moins qu'ils nous demandent. On est appelé, une chose par exemple qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire, c'est de prier pour eux, pour eux et pour leurs enfants. Et à travers cela, c'est, ça reflète un peu ce que les autres ont partagé. C'est ce que Dieu nous demande en tant que parents, en tant que grands-parents, c'est d'être des modèles constants. Pas, on va dire, une semaine sur deux ou une journée sur deux ou quoi que ce soit. Oui, ce n'est pas toujours facile et on ne réussit pas toujours à 100%, mais par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on vise. Une autre chose, c'est d'être disponible pour les aider aux besoins, d'être à l'écoute, attentif à ce qu'ils vivent et de voir comment est-ce qu'on peut les aider, les soulager, les accompagner. Et inévitablement, on prie qu'on puisse avoir un impact dans leur vie et celle de nos petits-enfants. Pour ce qui est du deuxième, il va y avoir peut-être un peu de répétition, là, mais en tout cas, c'est parce que si vous n'avez pas compris la première fois, peut-être que ça va catcher le deuxième. Et c'est savoir se taire quand nous ne sommes pas d'accord avec leur choix. Puis, de tout simplement remettre ça à Dieu, puis lui faire confiance que Dieu, en cours de route, il va les diriger de la bonne manière. Puis, en même temps, de réaliser que on apprend autant par nos erreurs que par nos succès. Puis, si on ne permet pas à nos enfants, dans un sens, de faire des erreurs, puis qu'on est tout le temps en train d'intervenir pour éviter les erreurs, mais on ne leur fait pas une faveur. Enfin, peut-être que ça nous soulage, nous, là, parce qu'ils vont paraître comme beaux et fins, mais l'œuvre de Dieu dans leur vie va être handicapée. Et une autre chose, c'est d'accepter la volonté de Dieu pour chacun d'eux. C'est certain qu'en tant que parents, on aspire que nos enfants, on a comme une aspiration pour nos enfants, où est-ce qu'on les verrait, ce qu'ils feraient comme carrière ou quoi que ce soit. Puis, la volonté de Dieu pour leur vie ne correspondra pas nécessairement à ce que nous, on veut. Puis, comme quand Chantal a décidé de... croyait que Dieu voulait l'envoyer en Afrique, oui, on était d'accord, mais dans un sens, ça n'aurait pas été nécessairement mon premier choix. Mais à travers notre vie, on avait prié que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Alors, quand il est venu le temps, c'était plus le temps de dire à Dieu, ben, hey, je pense que tu t'es trompé. Je pense que moi, j'ai une meilleure idée. Non, il faut dire, OK, ben, si c'est ça qui est la volonté de Dieu, on veut t'accompagner là-dedans, on veut t'appuyer, on veut t'encourager. Et que ce soit pour elle ou pour les autres aussi. Ensuite, accepter le fait que nos enfants et nos petits-enfants ont moins besoin de nous en vieillissant. Ils ont leur propre vie, ils ont leur propre activité, en tout cas, ainsi de suite. Puis, ils ne sont pas toujours dans le décor, proche. Alors, oui, on a des rencontres de famille à l'occasion, et ça, on peut en profiter, en bénéficier. Mais il ne faut pas avoir une attente en tant que rendu à ce point-ci, de dire, bon, bien là, il faudrait qu'ils m'appellent à chaque jour, puis qu'ils viennent me voir à tous les deux jours, ou au moins une fois par semaine. Puis mettre des choses. Si ça arrive, remerciez le Seigneur. Si ça n'arrive pas, bien, je veux dire, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Puis, mais un des passages qui m'est venu à l'esprit, c'est dans toute cette réflexion-là, c'est le psaume 78. C'est un long psaume, mais je veux juste vous partager la première partie. Puis ici, vous pourrez le lire par vous-même à une autre occasion. Mais ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements.
Merci, Gaétan. Vraiment, on devrait donner une bonne main d'applaudissement à ces gens. Et en même temps, chacun de vous qui êtes parents, et si vous n'êtes pas, vous allez l'être un jour, dans votre propre situation, ça ne serait pas méchant qu'au lieu de critiquer le prédicateur au dîner, que vous disiez, bien, quelles sont les réponses aux deux questions que les quatre personnes ce matin ont répondu? Quelles seraient vos réponses? Qu'est-ce que vous considérez le plus important à faire comme parent? Et quel est votre défi? Quel est le sujet de prière? Et j'ai bien aimé le partage ici de chacun, l'exemple de Christ qu'on doit répéter, mais aussi le fait que Fanny a dit, « Je ne suis pas seul. Je suis seul dans ma maison, mais je suis entouré. » Oui, il y a de la parenté biologique, mais il y a aussi l'Église. Et c'est ça, l'Église locale. On a quelques minutes encore, et j'aimerais vous partager... J'aimerais vous partager un passage dans Deutéronome au chapitre 11. Et dès le début de ce chapitre-là, on voit que l'Éternel mentionne deux générations. Et au verset 2 de Deutéronome, chapitre 11, on lit « Reconnaissez aujourd'hui, juste quelque peu les gars, hein, les filles, on va juste attendre, ça va prendre 2-3 minutes. » On a un grand enfant là qui fait son possible. Alors le verset 2, « Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants, qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel, votre Dieu, vous a éduqué, sa grandeur, sa puissance et sa force. » Et au verset 7, il dit, « Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. » C'est intéressant, Deutéronome 11, il mentionne deux générations, celle qui a vu, celle qui n'a pas vu. Et il donne deux directives très simples à cette génération. Et la première directive, c'est ceci. Vous respecterez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Et le verset 16 voit un peu la même chose. Le verset 18 aussi va dans ce même sens-là. En d'autres mots, il dit à cette génération qui ont vu, « Soyez des modèles, reflétez qui je suis. » Et la deuxième directive qu'il donne, eh bien, comme Gaétan l'a mentionné dans ce psaume, c'est répété ici, « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. » Et dans les versets 19 à 20 de cela. Et vous savez, ici, il y a au moins deux générations. Il y a celle des parents, des adultes, et celle de la génération qui suit. Et la même directive s'adresse à vous. Vous, la génération de parents, soyez des modèles. Soyez des exemples de l'amour de Christ. Et je dirais, un peu comme Fanny a dit, l'une des façons d'être vrai, d'être réel, c'est de reconnaître devant vos enfants que vous n'êtes pas parfait. Et donc, des occasions de confesser, reconnaître vos erreurs, demander pardon à vos enfants et de voir comment Dieu vous relève dans tout cela. Première directive, être un modèle d'un enfant de Dieu. Et la deuxième directive, eh bien, vous savez, c'est d'en parler. Mais il y a ce vieux proverbe au Québec qui dit que les bottines suivent tes babines. Donc, l'exemple de vie, c'est le fondement pour que l'enseignement que vous allez donner soit crédible et qu'il soit écouté. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cela, vous quatre et vous autres aussi. Et avant qu'on va, je vous laisse, on m'a demandé de présenter le cadeau, un cadeau que l'Église vous fait. C'est un livre qui s'intitule « Dieu m'a créé comme je suis ». Un livre qui a été traduit par Publication chrétienne en 2019. Et les parents, surtout au milieu francophone, manque beaucoup d'outils. Et ça, c'est un bon outil. Et voici ce que l'une des personnes a partagé quand elle a lu le livre. Ce livre doit être lu par tous les parents qui veulent donner à leurs enfants les moyens de se protéger de ceux qui font du mal aux plus petits. Alors, Nancy Bergeron, qui est là, en arrière, là, vous la voyez tous, c'est à la porte et elle est à une table. Et on a acheté suffisamment de livres pour donner un livre à chacun des parents. Donc, un par famille. Et si vous êtes grands-parents et vous avez l'occasion aussi de partager avec des petits-enfants, eh bien, n'hésitez pas de prendre une copie du livre. Merci beaucoup.